Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuance.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Bienvenue dans l'émission de l'éclat des noctules du mois de avril. C'est le printemps, quoi.
C'est le printemps. Enfin. Et aujourd'hui, on va parler d'habiter, se loger, le foyer, la maison. On parle de logement ce mois-ci parce que c'est central dans bien des vies. On ne pourra pas vous parler de tout dans cette courte émission d'une heure. Pas tellement d'habitat dans lequel on est contraint de vivre, comme quand on est enfermé, en hôpital psychiatrique ou en centre de rétention administratif, en prison. On parlera pas non plus d'hébergement quand il est contraint. Et pas vraiment de vivre à la rue. On aurait pu faire 1000 émissions, mais en fait on n'en a fait qu'une, alors faudra vous y faire, on a fait des choix. La critique des classes sociales se loge dans pas mal de nos réflexions dont on vous rabâche les oreilles, mais là aussi on n'en parlera pas en détail, mais vous pourrez écouter notre coup de cœur sur les ondes de Radio Royan, qui est consacré à la classe dans le logement. Pas la peine de vous préciser qu'on fera pas un cours de féminisme sur le foyer et l'assignation des femmes à la maison. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si c'est hyper important de savoir à quel point l'enfermement dans l'espace domestique, avec tout ce qu'il comporte comme violence, est central pour expliquer la relégation des femmes dans la société au foyer, aux tâches domestiques et dans l'explication du patriarcat. On a aussi décidé de parler de l'habitat des humains et des humaines, et pas des blaireaux ou des oiseaux, comme le fait si bien Vinciane Després.
Ouais.
Cœur sur Vinciane Després. On ne parle pas non plus d'exil, de perte de la maison, comme tant de personnes le vivent en ce moment, à cause des guerres comme en Palestine, du climat ou même de la prédation immobilière. Et c'est plutôt là qu'on va se placer, dans le marché immobilier. Oui, oui. D'abord, dans le très local, en parlant de l'accès à l'habitat dans la campagne et dans le Royan en particulier, de l'impact du logement saisonnier sur la vie rurale, et on parlera aussi du logement social en général, en l'abordant depuis la parole d'une personne qui a travaillé là-dedans. Puis, on abordera le logement sous le prisme de ce qui nous fait, la santé physique et mentale, qui en dépend. Et on se demandera aussi, quel est l'imaginaire qui nous habite? Eh ouais, qui nous habite? Quand on parle de maison, le pavillon par exemple, on n'est pas très réactif.
Attends, mais on est qu'au début de l'émission, tranquille, voilà. On se chauffe quoi.
Ouais. Et oui, donc on dit bonjour Céline.
Bonjour, c'est le matin.
Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Bonjour Chico.
Oui, bonjour.
Et bonjour Gaëlle, qui ne peut pas répondre, mais elle dit bonjour avec la tête. Bon, voilà. Donc en fait, c'est la crise du logement un peu partout. Beaucoup de personnes le ressentent. Et donc, on avait envie de s'attarder un peu plus là-dessus. Est-ce que vous êtes prêtes?
On est parti. What a programme.
Alors, on commence avec un peu de son sur la FOP, qui a fait un petit travail d'investigation sur le logement dans le Royan.
C'est quoi la FOP?
Eh bien, ça arrive tout de suite.
Oui.
En fait, c'est Nora qui va nous expliquer ce qu'ils et elles ont fait. Et du coup, bah, comme toi, j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est la FOP?
La FOP, c'est la Fédération des Amis Usagers du Parc, une association qui a été créée avant même que le PNR du Vercors existe. Et ça regroupe différentes personnes et différentes associations qui sont autour du Vercors et qui mènent différents types de projets liés aux espaces naturels dans lesquels on vit.
Alors, Nora m'a parlé d'enregistrement qu'il et elle avaient fait dernièrement et je lui ai demandé ce que c'était que cette histoire de micro-trottoir.
Il y a un an et demi, dans la FOP, on a créé un groupe logement pour réfléchir à ce que c'était qui traversait notre territoire sur le Royan et le Vercors en termes de logement, en partant un peu des constats de galères autour de nous pour accéder à des logements qui sont toujours d'actualité. Et on a le premier événement qu'on a organisé autour de ça, c'était un micro-trottoir qu'on a fait pendant un marché au mois d'avril 2023 à Pont-en-Royan, un mercredi matin. On a proposé des questions autour du logement aux habitants qui s'arrêtaient au marché et qui nous ont raconté des petites histoires sur leur vision à eux de la question de l'accès au logement à Pont-en-Royon.
La proposition, c'est en fait l'idée de ce stand, c'est aussi de pouvoir recueillir un peu des témoignages ou des récits ou des trucs qui te parlent. Et du coup, il y a deux propositions, soit de recueillir tes réponses à l'écrit, soit à l'oral en enregistrant ta réponse.
Partagez-nous des stratégies de toi ou tes proches qui ont permis d'accéder à un logement, à un espace alors que c'était pas gagné. Bah, malheureusement, à 35 ans, j'ai dû demander à ma maman d'être garante. Voilà.
Donc la question, c'est comment es-tu satisfaite et insatisfaite de l'espace que tu habites ou utilises aujourd'hui. Donc moi, je me considère comme une nantie parce que j'ai une maison qui est à moi sur les hauteurs de Pont avec une super vue et je suis tranquille et je suis super bien. Et près de la ferme de Courtevoux là-haut et du coup, c'est vachement bien. Donc je fais partie des nantis. Voilà, pour moi, donc ça va.
Ton logement, il est adapté à tes besoins d'habiter ?
C'est un logement que j'ai fait construire et qui est une ossature bois. Qui est pas trop grand, qui a un petit bout de terrain, pas trop de voisins, donc moi ça me va. Voilà, c'est pour ça que je suis vraiment une nantie.
Une nantie ?
Oui, privilégiée. Dans beaucoup de villages ou de villes, il y a pas mal d'appartements qui sont inoccupés et c'est un peu dommage. Et du coup, je trouve que, sans être absolument macroniste, je trouve que de taxer les résidences secondaires, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Voilà.
Toi, il y en a autour de chez toi des résidences secondaires ou des logements vides ?
Bah dans le village, il y en a, oui. Dans le village, il y en a plein. Oui.
Mais il y en a où
chez moi, je suis dans un lotissement, donc il n'y en a pas autour de chez moi.
Il n'y en a pas autour de chez toi.
Il y a un terrain qui est à vendre, mais il n'y a pas de logement vide, puisque ça s'est construit, c'est que des propriétaires autour de chez moi. Par contre, dans le village, il y a pas mal d'appartements ou de maisons qui sont fermées et qui s'écroulent toutes seules, quoi. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc avoir 3-4 maisons qui ne sont pas utilisées, j'en vois pas bien l'intérêt. Voilà.
Parfois il y a une histoire d'héritage, hein.
Oui.
Qui bloque.
Ben oui, mais.
Mais dans ce cas-là, je crois que force reste à.
Oui, les histoires d'indivision. J'ai vu de très belles baraques en allant me promener, qui sont fermées depuis des décennies parce que les enfants n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce qu'il y en a qui veulent vendre, d'autres pas.
Dans le coin, t'as vu ça, toi ? Ah, mais partout, c'est ah,
ben,
partout.
Tu vas à Saint-André, là.
C'est partout aussi.
Mais à Pont, il y en a aussi ?
Je sais pas, j'ai pas l'historique de toutes les baraques de Pont, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à Pont, il y a des maisons qui sont. Des appartements qui sont inoccupés. Le dernier exemple que j'ai vu, c'est à Austin. Je me promenais sur Austin, il y a une maison qui est fermée depuis je ne sais pas combien de temps. Et du coup, je suis allée discuter avec les voisins. Et c'est une histoire de divorce où ils se mettent pas d'accord sur ce qu'ils vont faire. Ça fait plus de 10 ans que la maison est inhabitée. C'est pas normal.
Non, c'est sûr, ça fait
mal. C'est pas normal. Voilà. Monsieur, dame.
Madame. Bah ouais, merci.
Ouais, merci.
Très bien. Merci de s'être arrêté.
Ouais. C'est vrai que je devrais demander aux deux potes qui sont pas en logement sociaux comment elles ont trouvé. Mais je pense que c'est parce qu'elles zonaient dans le coin, elles ont dû entendre que c'était alloué.
Et puis aussi, moi j'ai été surprise du prix des logements sociaux, enfin, parce que j'ai trouvé le logement que j'ai trouvé, il était moins cher que dans les logements sociaux. Enfin, et quand je cherchais, je comparais, c'était à peu près équivalent. Enfin, okay. Donc j'étais là, bon, ben.
Ouais, j'ai pas trop capté. Je sais qu'après, il y a des arrangements qui sont un peu cool par contre, du genre, tu sais, normalement pendant le premier mois, t'as pas encore les APL, ils arrivent après. En général, c'est tout ça. Et ben dans les logements sociaux, là, tu les comptes. Ils comptent comme si tu les avais direct.
Ouais,
pour permettre de payer que la part, pas avoir un mois de loyer entier.
Bah ouais,
mais après, ça se libère pas, c'est hyper prisé. Parce que l'autre fois, quand j'étais à France Connect, il y avait une personne qui est là qui cherche un logement depuis un an. Je pense les potes qui ont leurs apparts, là, elles l'ont depuis un an. Et du coup, la personne de France Connect, elle expliquait qu'en fait, il y a des moments où les gens partent. Et du coup, ça fait des apparts de libre. Et, mais après, ces apparts, en fait, il y a une liste d'attente de gens qui fait dessus, un peu comme... Pas une liste d'attente, mais du coup, c'est quand même dur dans le coin de trouver des apparts à pas trop cher. Enfin, c'est pas...
Bah, ouais, ouais. Oui, ils sont pris hyper vite. En fait.
Voilà.
Les plans qu'il y a, ils partent en deux secondes. Et
ouais.
Il n'y a pas autant de... d'offres que de demandes. C'est...
Ouais.
Alors, ça commençait bien, cette histoire de micro-trottoir, et j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce que le groupe logement de la FOP prévoyait pour poursuivre cette réflexion sur le logement dans le Royaume.
Nous, dans le groupe logement de la FOP, on souhaite monter un document qui présente l'état du logement dans le Royaume et dans le Vercors, et différentes pistes d'actions qu'on pourrait avoir pour remédier à certains problèmes. On s'est un peu penché sur la question de la vacation, des résidences secondaires, des logements aussi touristiques. Et on a commencé par regarder les données accessibles, les données publiques, celles de l'INSEE ou celles des mairies, et qui dressent une situation qui est assez différente selon les villages, qui change énormément quand on est sur le plateau ou quand on est dans le Royan. Et encore dans le Royan, à Bouvante, on est à peu près comme à La Chapelle, sur des quasi 50% de résidences secondaires. Et ces données-là, elles nous donnent pas la réalité la réalité concrète de ces états du logement, parce que entre une résidence secondaire, un logement vacant, quelque chose qui est un logement qui sert que deux jours par an ou une maison de famille, on se pose la question de est-ce que ça a un impact sur l'accès au logement ici, des gens qui cherchent à acheter ou à louer, ou on constate autour de nous pas mal de difficultés là-dedans. Donc on essaye de un peu croiser les données et les ressentis des habitants.
Alors voilà, ça vous a probablement intrigué. Eh bien, figurez-vous qu'un moment radiophonique est dans les cartons pour parler plus en détail des recherches de la FOP sur le logement touristique dans le Vercors, du Royan au plateau, tout en haut sur la montagne. Je dis tout en haut sur la montagne parce qu'il y a des auditoristes, peut-être, hein, qui écouteraient cette émission en podcast à Paris et qui se demanderaient de quel plateau on parle. Donc là, je dis big up au plateau de Saclay, mais nous, en fait, on parle du plateau du Vercors. Voilà, donc d'ici peu, vous pourrez écouter plus de sons sur le mal-logement dans le Royan, sur votre radio locale préférée, Radio Royan 93 FM. Mais on va aller faire d'abord un petit saut en Bretagne, parce que là-bas aussi, y a des problèmes de logement.
Et oui, je voulais juste évoquer rapidement, avant de passer à la suite, que y a un collectif qui s'appelle Droit à la Ville, à Douarnenez, qui travaille depuis longtemps, qui ont fait une recherche-action sur la question des logements dans la ville de Douarnenez, qui est une ville touristique. Et ils ont publié, il n'y a pas très longtemps, chez nos amis camarades de la maison d'édition, les éditions du commun, un bouquin qui s'appelle « Habiter une ville touristique, une vue sur mer pour les précaires ». Et je voulais juste l'évoquer parce que je pense que c'est un travail qui est intéressant et important, dont on pourrait s'inspirer aussi pour, sur chacun de nos territoires, travailler cette question. Et je vous lis vite le petit pitch. C'est « Dans quelle ville voulons-nous vivre ?» C'est par cette question que commence le travail du collectif Droit à la Ville Douarnenez. La ville bretonne connaît depuis quelques années un boom de l'immobilier. Les prix et le nombre des résidences secondaires augmentent et les habitants-habitantes ont de plus en plus de mal à se loger. La ville se transforme, mais pour qui ? Ouvrage inédit qui s'attache à décrire les mécanismes de touristification. Waouh, c'est pas facile à dire. Touristification des villes côtières. Cet essai montre comment ceux-ci mettent au ban une partie importante et précarisée des populations locales. À partir de l'exemple de la ville de Douarnenez, le collectif a mené une riche enquête dont ce livre restitue les principaux éléments. Analyse, entretien et focus historique. C'est par un travail fourni et protéiforme que le collectif produit la critique de ce processus déjà à l'œuvre dans de nombreuses villes européennes et mondiales. Bon, là, ça parle d'une petite ville qui est Douarnenez, mais je pense que c'est transférable à par chez nous, quoi, et peut-être par chez vous. Voilà, c'est le fruit d'un long travail de recherche-action. Voilà, c'était pour en parler.
Bon, et vu que la crise immobilière, ça met un peu le blues, on va en écouter un. Ça s'appelle House Rent Blues, et c'est Bessie Smith qui le chante.
On a cold bed. In man comes a creeping. In my bed I'm sleeping. He left me with old Alvin Blue.
Alors, en fait, on avait envie de parler d'immobilier. Enfin, moi, en particulier, j'avais envie de parler d'immobilier parce que j'ai plus du tout envie d'habiter là où j'habite, parce que c'était pas vraiment un choix. Et en fait, on n'arrête pas de regarder sur le bon coin et on trouve rien. Je sais pas vous.
Eh ben, moi, à une période, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les annonces de maisons à vendre, un peu comme un hobby, tu vois. Alors que j'avais pas du tout d'argent, hein. C'était juste comme ça, faire du lèche-vitrine sur le bon coin, tout ça. Et c'était un peu pour rêver. Et du coup, je me suis posé la question de pourquoi je rêvais d'avoir une maison à moi, alors qu'en fait, mon appartement était franchement bien pour le coup. Et du coup, bah, je me suis posé la question aussi un peu plus largement, pourquoi on rêve un peu tous de ça, avec bon, des nuances et des particularités. Mais faut forcer de constater que, en tout cas, les centres des villages ici, ils sont vides, et ailleurs aussi. Et par contre, ça construit autour, quoi. Donc, je suis allée chercher un peu du côté de notre enfance pour voir un peu qu'est-ce qui nourrissait notre imaginaire. Et j'ai fouiné deux pistes qui pourraient influencer ça. Et c'est... Alors, le dessin de la maison au milieu de son pré, vous voyez, je sais qu'il y en a qui m'ont dit par ici qu'ils ont dessiné encore. Et la cabane. Du coup, le dessin de la maison individuelle ou familiale, bon, c'est rarement une coloc hein, qu'on dessine ou une autre forme collective. On se demande un peu qui c'est qu'on n'a jamais dessiné. En tout cas, je me suis demandé d'où ça vient. Et c'est facile, en cherchant, de trouver des tas d'interprétations psy du dessin, comme si l'enfant de lui-même, il avait eu cette idée tout seul ou toute seule. Mais j'ai pu constater, en fait, en suivant les évolutions graphiques de mon propre enfant, qu'il y a quand même un commencement. Et si c'est pas à la maison ou à l'appartement, enfin bref, chez lui, ça vient de l'école.
Allez, encore, on tape sur l'école ?
Bah oui. Mais d'après les instituts que j'ai questionnés, c'est pas une étape obligatoire, ce dessin. Pourtant, à l'école de Saint-Laurent, il y a eu un exercice de graphisme qui consistait à reproduire tous le même dessin, une maison, avec de l'herbe et un arbre à côté. Donc j'ai parcouru le programme, mais j'ai rien trouvé. Dans le chapitre dessiné, on va plutôt avoir des belles phrases du style « Les enfants doivent avoir du temps pour dessiner librement » et « Les échanges sur les différentes représentations d'un même objet enrichissent les pratiques et aident à dépasser les stéréotypes.
Mm-hmm. »
Donc, a priori, l'exercice aurait été le même s'ils avaient dessiné un immeuble sur un parking avec un réverbère à côté. Ça fait juste moins rêver, quoi.
Ça, c'est clair.
Bref, comme on s'y attendait, c'est un peu trop simple tout ça, la faute à l'école et tout. Les instituts, comme nous-mêmes, ils sont imprégnés par ce rêve qui est partout, dans les livres pour les enfants, pour les adultes, mais aussi les films, les pubs. Et tout ça, bah, c'est l'imaginaire du capitalisme autour de la réussite sociale, être propriétaire, plus c'est grand, plus t'as réussi, etc. Et même quand on cherche pas à réussir financièrement, bah, on est colonisé par ce rêve. Donc voilà. Bon, et comme dans ce système, ben tout ne profite pas à toutes et certains sont plus privilégiés que d'autres, on peut se poser la question, la maison individuelle est-elle plus le rêve de qui ? Oui, c'est qui rêve de ça ? Plus ? C'est pas très clair. Parce que par exemple, ça lui profiterait plus. Est-ce qu'il y a pas des gens qui voilà, pour qui c'est plus accessible ou ça leur profiterait plus ce rêve-là ? Et du coup, j'ai trouvé la question et sa réponse dans la déferlante de août 2023 où il y a tout un dossier sur habiter intéressant dont l'interview de la sociologue Anne Lambert qui a écrit aux éditions du Seuil tous propriétaires l'envers du décor pavillonnaire. Elle a enquêté auprès d'une quarantaine de familles hétérosexuelles dans un nouveau lotissement du Nord-Isère, pas très loin
chez
d'ici.
Chez nous.
Ouais. Bah non, là on est en Drôme.
On est dans la Drôme. Pardon, je n'y vais toujours pas.
Donc c'était des familles qui étaient avant dans le parc locatif social ou privé et qui ont bénéficié des aides de l'État pour devenir propriétaires. Et du coup, elle met en lumière que le rêve pavillonnaire, c'est surtout un rêve d'homme et que pour les femmes, c'est plutôt synonyme d'isolement et d'augmentation des charges domestiques. Elle dit.
Alors, elle dit que dans un couple, les deux partenaires veulent en général améliorer leurs conditions de logement. Néanmoins, au moment de la concrétisation du projet, la maison individuelle n'est pas spécialement valorisée par les femmes. Parfois, elles n'y pensent même pas au départ. Il n'y a pas de rejet massif du parc social. Ce type d'habitat n'est pas vécu comme un repoussoir dès lors qu'il est entretenu. Les femmes ont même une très forte conscience que cela les protège des aléas de la vie et du marché immobilier. Et pour les hommes, c'est différent. D'abord, la maison les assoit dans le rôle du bon père de famille, entre guillemets, capable de gagner des revenus stables, de gérer un budget et d'offrir à sa femme et à ses enfants des conditions de logement optimales. Ensuite, la maison est source de fierté personnelle, symbole de réalisation de soi. Elle permet aux conjoints de faire valoir leurs compétences techniques et leur ingéniosité quand ils fabriquent un bassin pour les tortues, etc., un four à pizza ou quoi. C'est aussi l'occasion pour les hommes de développer des réseaux de sociabilité. Au moment de la construction, un entre-soi masculin se développe, notamment pour des raisons de forte pression matérielle et financière, quand ils ne peuvent pas s'en occuper eux-mêmes. Ils sollicitent d'autres hommes de leur entourage pour faire un oblaque, un peu de terrassement par exemple.
Alors que les femmes, du coup, ce qu'elles racontent après, c'est qu'elles vont plutôt perdre un réseau social, le soutien qu'elles avaient en habitant en immeuble avec leurs voisines et la famille, et se retrouver à faire beaucoup de trajets en voiture, puis seules à la maison à la journée si elles ne travaillent pas, dans un environnement urbanistique qui favorise la comparaison sociale avec les voisins et qui crée des hiérarchies sociales dans ces zones pavillonnaires, qui n'existent pas dans un immeuble où tout le monde a le même loyer. Bref, je vous conseille cet article.
Juste, La Déferlante, c'est un magazine féministe. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'était juste
pour préciser. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelque chose de plus poétique dans ce rêve, de plus archaïque, qui viendrait avant ce foutu capitalisme ? La cabane. Qui c'est qui nous raconte une cabane de son enfance ?
Alors moi, j'ai toujours voulu avoir une cabane quand j'étais enfant. Et je me rappelle que j'avais demandé à mon papa, mais il n'y avait pas d'arbres assez solides dans le jardin. Enfin, on avait un tout petit jardin. Et voilà. Et alors du coup, avec ma sœur, on a monté une espèce de cabane en plastique dans le jardin, genre type tente, mais en plus cheap. Et sinon, je crois que ça nous est déjà arrivé de faire des cabanes avec des tissus, vous voyez, des plaids, des trucs comme ça, dans le salon, ou peut-être plutôt dans notre chambre. En tout cas, là, aujourd'hui, dans ma maison, avec l'enfant avec laquelle je cohabite, on fait ça, dans le salon, avec des tissus. Vous faites ça aussi, vous ?
De faire des cabanes avec des tissus ?
Ouais.
Non, je ne fais plus, c'est pas vrai.
Bon, et ben, alors, d'après Saskia Cousin, qui est une anthropologue et maîtresse de conférences à l'Université Paris-Descartes et qui a été interrogée sur le sujet des cabanes dans le cadre d'une exposition sur les cabanes à la Cité des Sciences à Paris entre 2018 et 2020, toutes les sociétés produisent des cabanes. Les cabanes sont une des formes premières de l'habitat humain. Une cabane, c'est pas une maquette, c'est l'archétype de l'habitat. Sur le site de la Cité des Sciences, elle nous dit « Abri par excellence, l'imaginaire de la cabane est infini, comme le sont ses déclinaisons à travers le temps et l'espace. Dans la cabane, les adultes projettent leurs enfances, leur nostalgie et leurs craintes. Pour les enfants, rien de tout cela. La cabane n'est pas un souvenir, c'est un espoir, celui d'imaginer faire et refaire le monde, leur monde, et celui de s'y atteler en pratique. » Branches feuillues ou planches à repasser, draps de bain ou cordes à sauter, chaque enfant se saisit de ceux qui l'entourent, se confronte au bricolage, s'initie à l'architecture. En construisant sa cabane, chaque enfant s'approprie un territoire et le fait sien, réinvente son histoire personnelle et collective avec la grammaire des objets qui l'entourent, produit sa zone de sécurité, son lieu d'expression. Chaque nouvelle cabane est un chez-soi et donc ouvre la possibilité d'une invitation donnée à l'autre. L'enfant invente ainsi l'hospitalité. La cabane des enfants est un espace-temps de constitution de l'identité et de l'altérité, un temps et un espace d'initiation à la culture matérielle et à ses enjeux symboliques. Faire sa cabane, c'est participer à construire sa réalité. Alors, est-ce que c'est pour construire sa réalité qu'on veut être proprio ? Ben, peut-être. Pour continuer sur les cabanes, Saskia Cousin, elle dit aussi « La cabane a son envers la bicoque, la construction de guingois, qui révèle la précarité du bâti et celle de ses habitants. » Mais moi, je suis pas d'accord avec elle, parce que j'ai lu plusieurs définitions du mot « cabane », et là, c'est comme si elle réduisait le sens à seulement les cabanes des enfants et de l'exposition et des touristes en habitat insolite. Parce que faut savoir que quand on tape « cabane » sur un moteur de recherche, on tombe que sur des sites de camping qui louent des cabanes très très chères. Il y en a un par ici aussi, d'ailleurs. Alors, je préfère la définition de Wikipédia, qui englobe plus de réalités sociales et qui dit que la cabane, elle se distingue par un certain nombre de caractéristiques de la maison. Elle est destinée à abriter soit des humains, soit des animaux, soit du matériel. Elle est bâtie de manière rudimentaire, d'où sa fragilité, sa précarité. Et elle est plus souvent autoconstruite, rapport encore avec construire sa réalité. Elle fait appel habituellement à un matériau local, le bois dans les zones forestières, la pierre dans les zones rocheuses, mais aussi les matériaux de récupération qui ne sont pas à exclure, surtout dans les zones périurbaines. Elle ne représente qu'un faible investissement financier, voire aucun, d'où sa valeur marchande faible ou inexistante. Sauf donc pour l'habitat insolite, donc je l'exclurai finalement, moi, de la définition des cabanes. Et puis ensuite, il y a un extrait du dictionnaire de la langue française de 1873 qui précise que « la cabane exprime quelque chose de chétif et de misérable. La cabane est la maison du pauvre. Mmh. » Et pas seulement en 1873. Ben oui, Saskia, les cabanes, ça existe toujours et même avec des pauvres dedans. Même si l'État, il fait tout pour les virer, comme par exemple les virer, comme à Toulouse la semaine passée ou à Mayotte il y a quelques mois. Et puis, ben, pour le contexte plus local ou rural, si vous aviez un terrain ou qu'on vous prête pour y construire une cabane ou y mettre une yourte, une roulotte, une caravane, etc., eh bien, soit vous n'en parlez à personne, soit vous allez directement négocier avec la mairie parce que si vous imaginez passer par la voie légale, moi, je vous dis bon courage. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans de belles maisons individuelles qui ont écrit des lois pour justifier de virer les cabanes. Donc, pour faire un petit point là-dessus, il y a une asso qui s'appelle Hameau Léger et qui œuvre pour rendre accessible le contenu de la loi permettant à chacun de s'installer légalement et durablement en habitat réversible, ils disent, pour faire appliquer la loi Allure. Voilà. La loi Allure, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui crée, dans le code de l'urbanisme, le statut de résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, défini par les critères suivants.
Occupé au moins 8 mois par an, sans fondation. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pas des fondations très solides, j'imagine, et facilement et rapidement démontable.
Donc la cabane, voilà, sans fondation, il faut qu'elle ait des roues, par exemple. Donc la loi, elle précise par ailleurs que cette installation, elle peut être autonome vis-à-vis des réseaux publics, tout ça, et que ce n'est pas obligatoire d'être raccordé. On peut s'installer sur une zone constructible ou sur un stécal, secteur délimité dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, pour y accueillir des constructions spécifiques. Mais j'ai questionné une habitante légère, on va dire, et elle m'a dit il n'y en a quasiment pas des stécales. Ça n'existe quasiment pas. C'est très rare. Et puis, il y a les démarches administratives, déclaration préalable de travaux, si surface de plancher entre 5 et 20 mètres carrés, permis de construire au-delà de 20 mètres carrés. Et bon, et donc là, c'est au bon vouloir après de la mairie, suivant le PLU, le voisinage, qui peut faire des recours. Bref, autant dire que c'est bien compliqué et souvent pas accepté. Après, là, c'est un tout petit topo qui concerne peu de gens et un habitat choisi. Si vous voulez en savoir plus sur le site de l'asso, il y a un tableau récapitulatif des différents statuts existants qui mentionne aussi les terrains mis à disposition pour les habitats mobiles, par exemple. Et voilà. Bref, l'État, il n'aime pas trop les habitats précaires, alors il les encadre fort fort. Donc voilà, pour finir... Ben, si on revient à l'enfance, on peut se dire qu'entre les dessins de maisons dans la prairie et les constructions de cabanes, finalement, on visite sans le savoir les deux extrémités de l'échelle sociale. Et pour n'oublier personne, on envoie une petite pensée à celles et ceux qui sont en cabane.
Et peut-être, du coup, on écoute, à propos d'enfance, une petite, ouais. Petite fabulette d'Anne Sylvestre sur la maison.
J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et des portes aussi, faut le reconnaître, et des portes aussi, il faut bien sortir. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et un escalier qui grimpe, et un escalier qui fait mal aux pieds. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et un ascenseur qui est toujours en panne, et un ascenseur qui fait mal au cœur. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long, et des habitants qui qui grogne, et des habitants qui n'ont pas le temps. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long. Et puis moi, ça va, je saute, et puis moi, ça va, je ne m'en fais pas. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long.
Vous êtes toujours sur Radio Royan, 93 MHz, et vous écoutez L'éclat des noctules.
Alors, cette émission parle donc de logement, et quand on parle de logement, moi, ça me fait penser au logement social. J'ai eu la chance de partager un HLM avec des personnes formidables, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Je voulais donner la parole à la personne qui nous a fait visiter le HLM. Elle s'appelle Patricia. Elle le dira elle-même dans un instant, le logement, c'est important dans l'histoire de sa vie, parce qu'elle a grandi dans une baraque et qu'elle s'est battue et continue à se battre pour le logement digne pour toutes et tous. Je lui ai demandé de me raconter comment c'était de travailler dans un office HLM, ce qu'elle voyait des évolutions du logement social. Et elle nous parle des loyers qui augmentent, de la criminalisation des personnes qui ne payent pas leur loyer avec l'entrée en vigueur de la loi Casbarian, qui, si je ne me trompe pas, M. Casbarian est devenu notre ministre du logement. Les annonces du gouvernement sur les loyers intermédiaires. Bref, elle nous invite à garder une oreille critique quand il s'agit d'informations sur le logement, et elle nous dit que l'incitation à la guerre des pauvres contre les pauvres n'est jamais bien loin. Quand elle veut s'exprimer, les mots s'échappent parfois de la tête de Patricia, ils bataillent sur sa langue, alors ça se bouscule un peu. Mais ça vaut le coup de tendre l'oreille, alors écoutez bien.
Pour moi, le logement, ça a un sens particulier. En fait, on a vécu dans ce qu'on appelait une baraque, et la baraque, c'était quelque chose que mon père avait récupéré avec à peu de frais, probablement, qui a été mis sur le terrain de quelqu'un d'autre. Il y avait eu beaucoup de destruction à la guerre de 14, et du coup, ils avaient mis en place ce qu'ils appelaient des baraques, qui étaient plus utilisées. Et en 54, mon père en a récupéré une. C'est ça aussi. Enfin, alors, c'est pas l'histoire des politiques publiques, parce que
C'est pas
complètement le sujet. Mais pour se trouver des logements, parfois, les gens font des choses un peu étranges, même si actuellement, des fois, c'est plutôt des choses faites avec des bois récupérés ou du carton. On est toujours dans cette logique-là, même des années plus tard, quoi. Travailler dans un office HLM, c'est particulier. Hein, j'ai à la fois rencontré des gens qui étaient des fonctionnaires, qui avaient le sens du service public et qui avaient qu'une envie, c'était de bien faire et de bien attribuer et de bien entretenir, etc. Ce qui n'est plus le cas. Parce que d'abord, il n'y a plus de sous, parce que on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, quoi. Et puis maintenant, les logements sont chers. Et il y avait... Alors moi, quand j'ai travaillé, on était aussi sous la fonction... Enfin, c'était une trésorerie qui encaissait l'argent. C'était des finances publiques. Et on avait un trésorier payeur. Et moi, je me suis excellemment entendue avec lui pour récupérer les 3 francs 6 sous qu'il fallait récupérer. Lui était vraiment fonctionnaire. Il aurait pu être à Bercy. Il y a été très peu de temps. Il a refusé. Il est revenu en province. Et il avait un sens du service public. Il savait très bien qu'à un moment, ça passait. Il suffisait que tout le monde vérifie qu'il avait fait tout ce qu'il fallait pour récupérer l'argent. Il faisait ce qui était nécessaire. Du coup, j'ai pu faire les choses à ma façon, quoi. Il y a 20 ans, les gens payaient leur loyer. Parce qu'ils pouvaient le payer, c'était 10, 20% de leurs ressources. Et ils étaient là des fois depuis 10 ans, 20 ans, même 30 ans. Il y avait des râleries, mais une forme de satisfaction. Et donc, on paye. Aussitôt qu'on a un loyer qui coûte plus de 30%, à un moment donné, comment on fait entre manger, payer dans les dernières années où j'ai travaillé, les commissions d'attribution attribuaient des logements 40, voire 45% de taux d'effort. Ça veut dire qu'il te reste quoi pour vivre? Moi, je veux bien croire que si j'ai 10 000 euros d'argent tous les mois, je peux payer 40% de taux d'effort. Tu vas mettre des travails dans une boîte aux lettres, tu tombes sur des gens qui te le disent alors qu'ils te connaissent pas, qu'ils ont peuvent pas avoir confiance en toi, c'est simplement, c'est trop, ça déborde, je mets au défi n'importe qui avec un SMIC de payer 40-50% de ses ressources pour le loyer. Parce que le loyer, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est à côté, quoi. L'électricité, le chauffage, à un moment donné, tu peux pas. Et avec les nouvelles lois qui arrivent, ceux qui ne pourront plus payer, s'ils jugent leur supprime leur bail, ce qui est la plupart du temps ce qu'ils font, ce sont des gens qui seront dorénavant considérés comme des squatteurs. Et les squatteurs, il faut les criminaliser parce que c'est vraiment des gens qui occupent sans droit ni titre, effectivement, des lieux. Alors c'est récent, on n'en a pas encore l'expérience, on ne sait pas ce qui va se passer vraiment, on ne sait pas ce que vont faire les juges, est-ce qu'ils vont donner des délais, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que 6 mois. Donc quand on comment on se débrouille quoi, pour en 6 mois se retourner, trouver une solution, on ira à la Banque de France, on se fera interdire. Il y a vraiment des gens qui ont même des dettes importantes pour des raisons X et qui leur dignité, ils veulent qu'elle soit respectée et ils veulent payer leurs dettes. Alors que parfois, des travailleurs sociaux, des voisins, des militants leur disent Banque de France, non, je veux payer ma dette, c'est une dignité, je veux qu'on respecte ma dignité. Ça nous paraît étrange, incongru, enfin étonnant, on prend pas la loi qui existe, mais c'est comme ça, les gens ils ont besoin de payer leurs dettes. Actuellement on a un gouvernement, je sais pas ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire, ce qu'ils racontent en tout cas à la télévision ou dans les médias, c'est de dire dorénavant il faut que les loyers intermédiaires, pas tout à fait le logement social, pas encore le logement privé, et soi-disant qu'il y a des gens qui vont pouvoir payer ces loyers qui sont... Alors, moi, je parle tout le temps au mètre carré, le prix au mètre carré. Quand on paye 10 euros, 12 euros le prix au mètre carré, vous faites la multiplication avec une surface de 50 mètres carrés en moyenne pour un T2, puis vous voyez qu'à un moment donné, ça finit par être cher. Et que ces loyers-là, ils sont persuadés qu'un couple... où tous les deux ont 2000 euros, ils vont pouvoir les payer. Jusque quand, comment, ils veulent augmenter, créer plus de loyers, de logements intermédiaires pour cette population moyenne qui n'existe pas, en fait, parce qu'on a tous des bas revenus, ou beaucoup, en tout cas, puisqu'on a quand même 70% de la population française qui peut accéder au logement social. Donc ça veut dire qu'on reste à 30%, que ces 30%, ils ont aucune envie d'aller dans un logement intermédiaire, ça les intéresse pas. Donc qui va payer? On nous raconte beaucoup de choses qui sont pas totalement justes sur ceux qui possèdent des logements, sur les propriétaires. En général, vous pouvez être propriétaire de votre logement quand vous, pour des circonstances qui font que vous avez pu, ben pourquoi pas. Mais c'est pas pour autant que vous êtes plus riche que ceux qui sont en HLM et qui essayent de payer leur loyer. Parce que c'est bien souvent du même ordre. Et puis, il y a eu régulièrement, au cours du XXe siècle, des lois qui ont favorisé l'accession à la propriété, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Ben, ils ont assez de gens qui sont propriétaires, plus de 50%, bon, ça leur suffit. Voilà. Après, de toute façon, les autres, ils se débrouillent, ils font comme ils peuvent, ils s'entassent. Parce que s'entasser, c'est une vraie réalité. Hein. Quand vous avez votre fils qui revient à la maison, il a 30 ans, pas de logement, plus de boulot, ben, de toute façon, vous l'accueillez. Vous pouvez pas faire autrement, même si ça reste compliqué. Mais quand je me parle d'entasser, parfois, c'est la sœur qui revient avec ses enfants et son mari. Parfois, et ça, c'est des choses régulières, quoi. J'ai un autre souvenir avec les questions que tu me poses. Une femme qui avait eu 20 ans dans les années 50, 54, on va reprendre cette année-là, et elle vivait chez sa belle-mère. Et elle m'a expliqué que c'était vraiment pas génial de vivre chez sa belle-mère quand on a 20 ans. Et elle voulait absolument que son logement serve à un couple, à un jeune couple, et elle voulait qu'on lui donne un plus petit. Et pour moi, c'était aussi magique qu'elle me parle de ça, parce que moi, ça m'évoquait aussi le fait que moi, j'avais quelques mois en 54. Et à l'appel de l'abbé Pierre, mes parents n'avaient pas de logement. Et ils étaient dans un angle de pièce avec un rideau. Et ils dormaient derrière ce rideau. Voilà. Et le logement, bah, ça a toujours été quelque chose de difficile pour les gens qui vivent de leur travail, quoi, simplement. Mmh. Bah, actuellement, ce qu'on oublie les uns et les autres, c'est que le logement, il n'y a pas qu'un appartement, il y a aussi des moments où on est hébergé parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et les gens à la rue, enfin, il y a les gens à la rue, il y a les gens qui veulent être hébergés, il y a les gens qui travaillent, qui se dorment dans leur voiture. On est dans une période vraiment difficile, vraiment très compliquée pour beaucoup. Déjà, quand on en a conscience, on ne réagit pas pareil quand on entend des informations à la télévision. C'est ça qui est pour moi le plus important. C'est de réaliser que ce qu'on nous dit est des fois juste, mais pas toujours.
Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Et dans ce pays-là, moi je fais ma maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint, et leurs images en baume aux brises frissonnantes, aussi folles que l'aube, aussi belles que l'ambre. Dans cette maison-là, j'ai installé ma chambre. Ma chambre est une église, et je suis à la fois, si je vante un instant, ce monument étrange, et le prêtre, et le dieu, et le doute, et la foi, et l'amour, et la femme, et le démon, et l'ange. Au ciel de mon église brûle un soleil de nuit. Dans cette chambre-là, j'ai couché mon lit. Mon lit est une arène où l'on mène un combat sans merci, sans repos. Je repars, tu reviens. Une arène où l'on meurt aussi souvent que ça, mais où l'on vit pourtant sans penser à demain, où les grandes fatigues chantent quand je m'endors. Je sais que dans ce lit, j'ai ma vie, j'ai ma mort. Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits, les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons, mais moi dans ce pays, j'y ai fait ta maison.
C'était la grande Barbara avec sa chanson qui s'appelle « Ma maison ». Et on continue sur la question du lien entre le logement et la santé. Comme Patricia le disait, en effet, ça concerne vraiment énormément, énormément de gens, les problèmes de logement. Plus de 4 millions de personnes référencées, en sachant que c'est des statistiques qui sont difficiles à établir et que une personne qui vit seule dans une pièce minuscule au rez-de-chaussée au bord d'une route passante. Donc une pièce minuscule, ça veut dire 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, 25. Elle est considérée comme bien logée. Voilà, et puis toutes les personnes aussi qui sont logées en institution, pas forcément tout le temps dans des bonnes conditions ou aussi en prison ou quoi, elles sont aussi pas comptabilisées dans ces personnes qui sont mal logées. Donc en fait, c'est énorme. 70% de personnes qui... Bon, bref, on va arrêter pour les chiffres pour l'instant.
Non, mais c'est hyper important.
Mais c'est que oui, quand elle dit oui, ça concerne énormément, énormément de gens, mais en fait, il suffit de regarder autour de soi, mais ça dépend dans quelle classe on est, quoi. Donc, et puis, voilà, sur l'histoire de la santé, du coup, l'OMS, même si on n'avait pas besoin de l'OMS pour faire le constat non plus que, effectivement, le logement, c'est un déterminant de santé majeur. Et que agir sur le logement, c'est un des leviers principaux pour agir sur la santé des gens, des populations en général. Donc il y a des fonctions sociales qui structurent la vie. Et du coup, quand il n'y a pas ça, On constate vraiment beaucoup de pathologies différentes, des processus de stigmatisation, une dégradation sociale, la perte de l'estime de soi, beaucoup d'anxiété, de dépression, et puis beaucoup de symptômes respiratoires, des maladies infectieuses et des intoxications, etc. Et puis, bien sûr, on constate que l'accès au logement, c'est particulièrement difficile pour les personnes les plus précaires, donc les personnes qui sont les plus jeunes, les personnes assignées femmes, et puis tous les groupes minorisés, les personnes qui ont des handicaps, les personnes qui sont pas blanches, les personnes qui sont pas cisgenres, et j'en oublie certainement, avec les personnes âgées également. Mmh. Est-ce que vous, au cours de votre vie, vous avez constaté et vous avez envie de partager des observations autour de cette question de à quel point là où on habite, ça impacte sur comment on se sent et dans quelle santé on est?
Bah ouais, il y a un moment dans ma vie où j'ai pas mal passé de temps sur un bidonville. Et du coup, c'est hyper clair. Les gens là, ils doivent subir beaucoup plus fort tous les aléas climatiques. Et puis, pour se chauffer, en fait, il fallait brûler ce qu'il y avait à brûler. Du coup, ça fait des maladies respiratoires. Il y a des rats. Enfin, je me souviens beaucoup des rats aussi dans les histoires des enfants, dans les dessins qu'ils faisaient. Ça leur faisait peur, en fait, parce qu'il y a eu toujours un peu des petits bébés qui se sont fait mordre les oreilles. Voilà. Du coup, c'est clair que quand t'habites sur un bidonville, en fait, t'en es malade, quoi. Enfin, ton corps en est malade. Et... voilà, je ne saurais pas dire autre chose. C'est pas ma vie, c'est que ce que j'ai pu observer. Donc.
Mmh. Ouais, moi je pense à une personne dont je suis proche. Après, c'est relié au fait qu'elle n'ait pas de papier en France et que les questions de logement, c'est lié à une association qui met un appartement à disposition. Mais en tout cas, la précarité de sa situation liée au fait de ne pas avoir de papier en France et donc liée à avoir un logement qui est ce qu'elle peu avec cette association. En tout cas, je sais qu'elle a vraiment beaucoup de problèmes de santé physique et psychique. De la dépression, c'est sûr. Et puis, et des problèmes de... d'autres problèmes de santé liés, je sais pas, au fait de devoir monter les escaliers avec des charges de course, avec les trois enfants, nanana. Et donc, je pense à ça. Et je pensais aussi à une association que je connais qui travaille sur la question de des migrants et de la santé. Et qu'il y a un bidonville dans une des grandes villes en France où il y a des gens qui sont en train de se soigner, par exemple, d'un cancer, qui font de la chimio, ou qui font ce genre de gros traitements lourds, mais qui, en même temps, habitent dans une tente quechua au milieu d'un rond-point, au milieu de cette ville, quoi. Et que, du coup, je trouve ça dingue de se dire... que les gens sont pas dans des conditions de logement et de où leur corps peut se reposer, se mettre au chaud, se mettre à l'abri de l'humidité, tout ça pour faire des traitements aussi lourds sur des questions, enfin sur des trucs de santé, et que voilà, il y a certaines populations. Là, il s'agit beaucoup de Géorgiens et dans cette ville, mais que voilà, les hôpitaux les prennent quasiment plus pour faire leurs soins parce qu'il y en a trop, quoi. Et bon, voilà, c'est des questions que je discutais avec cette amie qui fait partie de cette association qui fait de l'interprétariat pour les migrants sur les questions de santé, quoi. C'est des trucs auxquels je pense.
Moi, sur les questions de santé, ça me fait juste penser à que je pense qu'il y a des choses qu'on voit pas forcément à la longue aussi. Enfin, il y a des aspects impressionnants, par exemple dans des logements qui sont clairement insalubres et que ça se voit et tout ça, machin. Mais qu'il y a aussi des aspects. Mon papa, il me demandait tout le temps, mais est-ce qu'il fait assez chaud chez toi? Et je pense qu'il avait raison quelque part, que à la longue, en fait, vivre dans un endroit où tu peux pas te chauffer correctement ou quoi, en fait, c'est des trucs qui usent et petit à petit, quoi, et que il y a aussi tous ces aspects-là des pollutions qu'on voit pas, ou des trucs, l'humidité dans une maison, ou et en plus, je trouve que c'est il y a très peu de prévention là-dessus. La prévention, il y en a sur plein de choses, mais sur les logements, moi, je sais pas, j'en ai pas trop vu. Du coup, je pensais à ça, finalement, quel risque il peut y avoir. Je sais que j'avais habité dans une maison où il y avait du salpêtre, mais je me suis jamais posé la question de c'était quoi le risque.
Et je pense que c'est assez fréquent, ces trucs-là.
Et toi ?
Je te rejoins vachement sur ce truc de... Il n'y a pas de prévention et il y a beaucoup de choses qui se passent à la longue. Et alors, on ne fait pas forcément le lien où ça ne vient pas forcément en tête de se dire... Mais en fait, c'est en train de m'atteindre, enfin, d'atteindre des choses importantes de moi et le fait de pas être bien logé. Ouais, je pense que j'ai pas mal, par rapport à mon histoire, en tout cas, j'ai pas mal de souvenirs, mais notamment le fait de, par exemple, pas avoir d'espace solo, une pièce seule. Parce que pendant beaucoup d'années, j'ai pas eu de maison et du coup, j'étais hébergée, je travaillais, j'étais sur la route, je me déplaçais et ou alors j'étais dans des lieux collectifs ou sur des occupations. Et puis, en effet, quand j'ai eu un studio, que j'ai atterri dans un studio à un moment donné et c'était trop étrange l'état dans lequel ça me mettait d'avoir une pièce fermée où j'étais seule, où il n'y allait pas avoir d'interaction. Je me suis rendu compte d'état dans lequel j'étais, dont je me rendais même pas compte à force de me tirer sur la corde, d'être dans l'adaptation, dans la survie, dans l'inconfort. Et que du coup, on se rend plus compte, parce que vu que l'habitat, c'est tellement quotidien, on se rend pas compte non plus de où est-ce que ça crispe, où est-ce que ça tend, où est-ce que ça fatigue, où est-ce que ça coûte. Tellement c'est un environnement dans lequel on baigne, quoi. Du coup, c'est difficile de se rendre compte.
Mais t'as observé une différence, enfin, où il y avait des trucs liés à la santé dans, enfin, là, je pense que tu parles plus de santé psychique.
Ouais.
Mais dans la santé physique, est-ce qu'il y avait aussi des choses dans ces années-là de non-logement privatif, une chambre à soi, quoi? Il y avait aussi des trucs de santé?
Je pense que j'étais jeune et que j'avais une bonne immunité et que ça m'inquiétait pas, pareil. Et que j'avais quand même la CMU, accès aux soins, plus ou moins. Non, à condition de pouvoir se déplacer. Et du coup, physiquement, en tout cas, pas des trucs spécifiques, moi, dans mon souvenir à ça. Mais en effet, il y a des trucs auxquels on pense pas. Par exemple, le plomb dans les peintures des habitations qui ont été faites avant les années, je sais plus combien, 49 ou 50, un truc comme ça. Et ouais, c'est ça, avant 1949. Il y a aussi tous les types d'intoxication dans des logements qui sont pas bien sécurisés et des sortes de traumatismes sur des lieux qui sont par exemple mal isolés avec un système électrique qui est pas sûr ou des choses qui tombent. Bon, on pourrait vraiment développer longtemps sur à quel point l'endroit où on vit est normal. Mais c'est vrai que c'est fortement étonnant que ce soit pas aussi posé, aussi porté, et peut-être qu'il n'y ait pas de plan un peu plus comment dire, des plans sociaux pour en se disant que peut-être c'est la base
et que c'est un problème de santé publique et
exactement.
Mais je me dis, les médecins généralistes par exemple, ou même les spécialistes qui voient arriver des gens, est-ce qu'ils prennent en compte, tu vois, ces critères de santé, enfin de logement, quand il s'agit de santé, quand ils voient arriver que ce soit des adultes ou des enfants? Mais est-ce que c'est des trucs qu'ils ont, je sais pas, dans leur formation ou dans leur tête, de se dire ah oui, mais en fait, cette personne, elle a déjà, elle est dans tel type de logement, évidemment que il y a des symptômes qui sont probablement corrélés ou je sais pas.
Mais c'est clair. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a certains médecins qui le savent très très bien, mais du coup, qui n'ont pas forcément. Enfin, on l'entendait tout à l'heure sur la difficulté d'accès à des logements. En fait, c'est des endroits qui sont difficiles à changer, quoi.
Oui, à quoi les ordonnances pour un studio, un TF2?
Suggestion à nos ministres.
C'est Casbarian.
Voilà, c'était un petit tour d'horizon rapide, ou un petit soulevage de questions, et on va écouter Sona Jobarté avec son morceau Kafarou, qui est une prière pour toutes les personnes qui perdent leur maison sous les bombes.
I love. son couteau ya wala fasita miku ya kono ayamuneke mengye nyingbalu nyasi.
Voilà, c'était Sona Jobarté. C'est la première femme qui est devenue joueuse professionnelle de Kora. Et pour faire la transition avec ce que tu vas nous raconter, Céline, je voulais juste vous citer un petit résumé d'une étude qui s'appelle Cali Survey Habitat, qui décrit les interactions entre les conditions de logement dégradées et l'état de santé des personnes. Et donc, en résumé, ça disait, ils disent, quand il est dégradé, le logement ne remplit pas ses fonctions sociales et individuelles. Il y a alors atteinte à la santé, absence d'ancrage, non-protection de l'intimité. Le logement devient un vecteur de honte. Les actes du quotidien qui contribuent à la protection d'un bon état de santé, se restaurer, dormir, prendre soin de soi, de son hygiène personnelle, ranger, grandir et se développer, se sentir en sécurité, ne peuvent se dérouler de manière satisfaisante. Telles sont quelques-unes des conclusions de cette étude.
Oui, ça fait directement le lien avec ce que je voulais aborder, parce que là, on parlait aussi de santé physique, mais je vais plus parler de santé psychique, moi. Et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite chronique culture, genre BD, dans cette émission. Et quand on a commencé à parler de ce thème du logement, ben moi, j'ai tout de suite pensé à celle de Lorraine Lesbains, elle s'appelle, qui s'appelle Maisonologue. Alors, le pitch de cette BD, c'est vous vous demandez ce qu'est une maison, jusqu'où elle vous contient et vous protège. Vous cherchez vos parois, vos limites, en quête d'une enveloppe, d'un nid, d'une cabane ou d'une seconde peau. Je me présente, Lorraine Lesbains, maisonologue. Je suis là pour vous. Alors d'abord, je voulais remercier Roux. Merci à toi, Roux, de m'avoir fait découvrir cette BD, si tu écoutes cette émission. Donc, elle m'a été conseillée par cette camarade voisine. Et du coup, j'ai tout de suite replongé dans ces questions d'enveloppe, de sécurité, d'insécurité psychique et symbolique créée par notre habitat. Oui, parce que dans une vie antérieure, j'avais travaillé sur la question de la peau, du toucher, tout ça. Donc, j'avais réfléchi à ces trucs un peu d'enveloppe. Et comme son nom l'indique, nos maisons, appart ou autres, représentent bien plus que des simples espaces où dormir, manger et faire sa lessive. Le terme lieu de vie est particulièrement bien approprié d'ailleurs. Voilà, j'ai eu envie de relire des choses que j'avais écrites dans une autre vie et autour de ce concept notamment du moi-peau développé par Anzieux et de vous faire une petite chronique BD psychanalyse ou psychologement par exemple. Une fois n'est pas coutume. Donc je suis désolée, ça va un peu jargonner, mais je vais essayer d'être la plus didactique possible. Alors, maisonologue, c'est un récit de vie à travers le prisme des différents habitats de la narratrice. On y côtoie son rapport à son intimité, à ses différents troubles. Tous les personnages de sa BD ont des têtes de maison qui symbolisent différentes formes d'habitat. D'ailleurs, j'ai la BD avec moi, alors c'est pas du tout radiophonique, hein, mais comme ça je peux la montrer à mes camarades, il y a des têtes de maison. Et Lorraine Lesbains, elle s'autodéfinit comme maisonologue, pas parce qu'elle se sent experte de la notion de maison, mais parce qu'elle cherche, elle se dit chercheuse. Tout ce qui fait enveloppe dans la vie d'une personne l'intéresse. Lorraine Lesbains, donc le pseudo c'est d'une prof d'art plastique, elle aborde les questions concernant la structuration du moi psychique et corporel, s'appuyant notamment sur les écrits du psychanalyste Didier Anzieux, qu'elle réussit à expliquer de façon limpide grâce à l'inventivité et à la délicatesse de son dessin.
Mais c'est quoi le moi peau alors ?
Alors, pour revenir au fondamental de la manière la plus claire possible, le moi-peau, c'est un concept clé de la psychanalyse développé par Didier Anzieux à partir de 1974. Il a été exposé dans différents travaux, dont en 1985, un livre précisément nommé « Le moi-peau ». Le moi-peau y est présenté comme étant davantage qu'une théorie psychanalytique. Il s'agit d'une façon de penser le psychisme depuis la naissance de l'humain jusqu'à son âge adulte, au moment où les névroses et les psychoses s'expriment le plus activement. Il ne s'agit pas d'une méthode de soins, mais plutôt d'une grille de décodage des multiples symptômes. Partant de l'hypothèse que le nourrisson, pour survivre, ne peut s'appuyer pour ses propres ressources que sur les sensations qu'il ressent à la surface de sa peau, Didier Anzieux se fonde sur sa pratique de l'analyse pour penser différemment l'interprétation analytique. En bref, ce qui est à retenir, c'est que la construction du moi se fait par étayage sur la peau, et ce, depuis la naissance et même durant la gestation. Au cours de l'enfance, les structures psychiques se mettent en place, permettant au moi de s'installer. Alors, je vais donner juste quelques petits rappels sur la peau, ce magnifique et incroyable organe. Du point de vue physiologique, la peau représente près de 18% du corps physique, pèse 3 à 5 kilos et occupe une surface qui peut aller jusqu'à 6 mètres carrés. Il est surtout le premier organe à se développer chez l'embryon humain. C'est le premier né de nos organes et le plus sensible de tous. Il existe une loi générale en embryologie qui dit que plus une fonction se développe tôt dans l'organisme humain, plus elle aura d'importance au cours de la vie de celui-ci. Autant dire que la peau, vu que c'est le premier, il va y avoir une importance considérable. Et puis l'air tactile prend une place prépondérante dans notre cerveau. Et du coup, ce sens de la peau est considéré comme fondateur de notre être au monde. On dit qu'il y a contiguïté épigénétique entre peau et cerveau. La peau fournit donc à l'appareil psychique des représentations constitutives du moi et de ses principales fonctions. Ce sont justement les expériences tactiles qui vont former le socle sur lequel viendront s'étayer les fonctions psychiques, puis le moi. Alors là, mes camarades sortent du studio, je ne sais pas si ça veut dire que c'est imbuvable, mais je vais vous donner un peu des exemples dans la BD. Du coup, pour Anzieux, la peau est en même temps un contenant, une interface entre le dedans et le dehors, et un moyen primaire de communication et d'établissement de relations signifiantes. À la naissance, et probablement in utero, à partir du fonctionnement des sens, le nourrisson va puiser dans son environnement proche les bases qui favoriseront sa survie. Donc le premier étayage auquel il a directement accès est le corps de sa mère. Il y a lieu de considérer deux situations dans le ventre maternel et les premiers instants hors du ventre maternel. Durant les 9 mois de gestation, l'ensemble de ses besoins en nutriments et en oxygène lui sont fournis. Le fœtus se développe, ses sens s'organisent et il peut alors percevoir son état comme étant contenu. Le corps contenant de sa mère forme alors une structure de vie convenable et sûre. Et dès la naissance, ses repères changent brusquement, le contenant s'éloigne, se modifie et il devient nécessaire de se procurer nutriments et oxygène en faisant des efforts. C'est ça donc la différence entre dedans et dehors, quoi. Durant les premières semaines de la vie aérienne, c'est toujours le corps de la mère, les interactions qu'elle a avec son bébé qui vont étayer, soutenir l'adulte en devenir, en lui servant d'appui extérieur. Ces interactions se font de deux manières, par les peaux respectives et par l'enveloppe sonore. Les cocons de paroles, d'odeurs, de sourires, de goûts et de caresses que prodiguera la mère à son enfant suite au détachement de sa chair vont beaucoup compter dans la constitution de son moi-peau. Et bien entendu, les autres adultes référents, père, deuxième maman, coparente. Ce sont les parents qui vont faire comprendre à l'enfant quelles sont ses limites dans sa peau, dans sa psyché, mais aussi dans la société. Il s'agit donc de border l'enfant dans le réel et dans le symbolique.
Et le lien avec l'habitat dans tout ça ?
Bon, alors le lien avec l'habitat, c'est que déjà, l'utérus, c'est notre première maison. Et puis, la qualité de toucher...
C'est un peu humide, non ? niveau taux d'humidité...
Oui, bon, alors niveau taux d'humidité, on est bien, mais à la fois, c'est hyper
habitat
contenant.
Habitat insalubre ?
Oh, s'il te plaît.
Pardon.
Et puis, la qualité de toucher, les stimulations physiques chargées positivement vont nous donner des appuis dans la vie et des liens d'attachement plus ou moins fuckés, quoi. Et donc, de là découlera notre rapport à nos habitats, ce dont nous avons besoin ou pas, ce que nous percevons comme intrusif ou pas, et que, voilà, tout ça, c'est très intime et très subjectif. Et d'ailleurs, dans la partie sur le moi cabane, dans cette BD, ça me faisait penser à ce que tu racontais, Anaïs. Lorraine Lesbain, elle fait une partie sur le moi cabane. Lorraine, elle dit que, selon elle, il y a 5 étapes de contenance nécessaires et universelles à tout individu. D'abord, le ventre de sa mère. Ensuite, les bras des parents, comme je disais, deuxième maman, coparent, père aussi. Sa couche, donc c'est-à-dire le lit, la chambre, la poussette, le couffin. Et puis sa cabane, la tente, l'abri, la cachette. Et enfin, son propre logement, quel qu'il soit. Et souvent, ça barde un peu quand une de ces étapes vient à manquer. Et donc, partager nos habitats met en jeu tout ça. La rencontre de nos identités subjectives, des complexités dont nous n'avons même pas conscience souvent. À moins d'aller travailler tout ça en psychanalyse. Et dans Maisonologue, Lorraine, elle dit que tout le travail de l'analyse, c'est de tenter de remettre les limites, des frontières délimitées, des contours. Et pour Anzieux, d'ailleurs, la société actuelle, enfin de son époque, des années 70, mais bon, je pense que c'est encore valable en 2024, ça nous refile un tas de troubles psychiques limites, notamment le foyer confiné de plus en plus restreint où l'enfant est grandement exposé à l'inconscient de ses parents. Et le type, il développe ça en 1975, vous imaginez maintenant. Et donc, en réaction à ces bugs de limite, on va chercher une seconde peau qui viendrait se substituer à la première jugée insatisfaisante. Voilà, par exemple, l'illusion du couple dans la fusion, l'illusion du groupe aussi, ou l'illusion architecturale. Et par exemple, dans la BD, Lorraine, elle parle de l'enveloppe. Et elle dit, en parlant de l'enveloppe, « De nombreuses composantes de ma vie jusqu'ici m'amènent à penser que j'ai toujours été dans une quête effrénée de bords et de limites. » Et elle donne des exemples, par exemple sa préférence pour les lieux confinés, sa manière de s'asseoir toujours contre les murs au cinéma, les heures passées roulées comme une crêpe dans un hamac. Et par exemple, l'idée de l'infini et l'absence totale de limites l'angoisse depuis le plus jeune âge. Je me suis bien retrouvée dans ces angoisses et dans cette recherche de bord.
Super.
C'est pour ça que j'en parle. Donc l'habitat, ça représente pour beaucoup d'entre nous un refuge, un cocon où pouvoir se déposer. Enfin, on en a parlé dans les questions de santé, mais aussi dans les questions sociales. Ça peut aussi être le lieu où on fait tomber le masque social et les angoisses qui y sont liées. La maison, c'est aussi un lieu de répit. Enfin, ça devrait l'être parce que les agressions du monde sont féroces. Mais parfois, les agressions sont à l'intérieur de l'habitat et c'est là où il joue plus à son lieu de refuge et de répit. Bon voilà, je pourrais continuer sur tous les autres aspects que Lorraine développe, notamment la question du couple et les différentes formes d'habitat. Mais voilà, je vous invite plutôt à découvrir cette BD. Je voulais dire aussi qu'elle est disponible à la médiathèque de Romans, sur Isère, pour les gens qui habitent dans le périmètre. Et que, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de reparcourir toute cette question et de réfléchir à la succession de mes habitats à l'aune de cette question du moi-peau. Voilà. Pour cette petite chronique BD psychanalyse.
Merci.
Tu me la prêtes ?
Ouais.
Trop bien, merci.
Enfin, c'est à Roux, alors je vais lui demander d'abord.
Et maintenant, on va écouter une petite chanson de Leila Makala, Scaled to Survive.
Thank you. Voilà, ben on s'achemine doucement vers la fin de cette émission de l'éclat des noctules du mois d'avril, consacrée au logement, à l'habitat, sur un plan physique, sur un plan matériel, sur un plan social, sur un plan psychique, vous l'aurez compris. Et
on voulait dire merci à Patricia pour tout ce qu'elle nous a confié. On voulait dire merci à Nora et à toute la bande du groupe Logement de la FOP.
Ouais, et aussi aux voix des copains-copines qu'on a reconnus dans le micro-trottoir. Et puis aussi à Roux pour m'avoir prêté la BD Maisonologue, par exemple.
Et à Naïs pour avoir été notre spécial guest sur cette émission.
Ouais. Et un petit deux mots sur le coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est donc le choix qu'on fait chaque mois et qui passe uniquement sur les ondes de Radio Royan Vercors, mais que vous pouvez là retrouver en ligne sur le site de Radio Rageuse. On a choisi, en fait il y a eu une série d'émissions qui s'appelle La dissection de la bourgeoisie, et le quatrième volet c'est sur le logement, et du coup c'est par le collectif C'est la classe. Et pour ce quatrième volet, il s'intéresse à comment vivent les bourgeois et bourgeoises et où ils vivent. Et pourquoi parler de bourgeoisie après de multiples discussions, constats sur la question de la classe dans nos milieux militants, c'est que c'est pas assez abordé. Et ils et elles se sont dit qu'elles avaient envie de s'y mettre et surtout de regarder du côté de la, enfin comment la question de la classe avec les points de vue féministes et antiracistes peuvent être tricotés quoi avec la question du capitalisme, qui est la base de toutes les oppressions. Et du coup, il y a aussi un peu cette envie que dans la sociologie, on n'arrête pas de scruter les pauvres. Il y a beaucoup d'études sur les questions de classe, mais plutôt d'un point de vue des pauvres, quoi. Et elle et eux se sont dit, on va voir comment ça se passe du côté des riches. Voilà, donc le collectif, c'est la classe et une dissection de la bourgeoisie sur le logement.
On vous souhaite un très bon mois d'avril. Et...
on se retrouve le mois prochain avec une émission sur la science
et le rapport au savoir.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, merci Gaëlle.